France Inter, le 7-9.
7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est journaliste et auteur de « État islamique, le fait accompli », c'est publié chez Plon.
Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Ça faisait plusieurs mois, depuis mai dernier, que la France n'avait pas été visée par un attentat, même s'il y a eu des tentatives déjouées. François Molins disait il y a quelques semaines à ce micro « la menace terroriste est moins forte qu'il y a 2 ans ». Du coup, avez-vous été surpris par cette attaque hier soir au marché de Noël de Strasbourg?
Franchement, je ne veux pas dire que j'ai été surpris, parce que la menace, elle est existante, elle est latente, elle est moins, elle a, prend pas la même forme, hein, que ce qu'on a pu témoigner, par exemple, le 13 novembre, où des équipes djihadistes terroristes sont projetées depuis la Syrie jusqu'en France. Ça, ça reste quand même exceptionnel, en termes de nombre de morts, en termes de monde opératoire, dans tous les sens du terme. Mais les velléités djihadistes, que ça soit en France ou en Europe, elles sont constantes.
Donc le sentiment que le danger terroriste était retombé est une erreur.
C'est une erreur, c'est une erreur. Ça veut dire un danger d'une constitution d'une équipe, il est beaucoup moindre qu'en 2015. Même une équipe sur place en Europe, comme qu'on a vu par exemple ce qu'on a pu voir à Bruxelles, parce que donc les services travaillent de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Et dès qu'il y a une équipe qui est constituée, même 2-3 personnes, donc le l'attentat est déjoué
assez rapidement. Mais
donc,
là, c'est pas des équipes, c'est pas non plus des loups solitaires en fait.
C'est pas des loups solitaires, parce que le loup solitaire, ça existe pas. Ça fait des années que je le dis. À force d'avoir des loups solitaires, on a une sacrée meute aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, il y a toujours dans les affaires terroristes depuis toujours, il y a toujours des ramifications, des réseaux, des points de chute, etc., etc. La seule vraie histoire d'un loup solitaire, c'est l'extrême droite et c'est Breivik. Ça n'a rien à voir avec le djihadisme.
Là, on attend de voir et on reste prudent puisqu'on ne sait pas encore si cet homme avait des complicités ou pas. On verra. Le fait de viser le marché de Noël, ce n'est pas neutre. En quoi cette cible-là est symbolique?
C'est symbolique, comme le marché de Noël à Berlin a été visé il y a quelques années. Et entre parenthèses, on a vu que l'assaillant à l'époque a été neutralisé à Milan. Donc voilà, il n'était pas du tout resté dans la ville où il avait commis son attentat. Et la ville de Strasbourg, en tout cas la cathédrale de Strasbourg, était une des premières cibles visées par un groupe qui était proche d'Al-Qaïda, qui n'était même pas d'Al-Qaïda, avant le 11 septembre.
C'était en 2000.
Voilà, c'était en 2001, mais avant le 11 septembre. Donc voilà, et après le marché de Noël, ça a une symbolique, bien sûr, qui frappe l'opinion publique, et parce que aussi, il y a la facilité. Il y a des gens qui circulent, c'est très facile de s'y attaquer. C'est pas une cible régalienne.
Alors cet homme, il est le profil, il est fiché S, il est déjà condamné pour des faits de droit commun, il est passé par la prison. Ce profil-là de délinquant qui bascule dans le terrorisme, est-ce qu'il est particulièrement commun et de plus en plus répandu aujourd'hui chez les djihadistes français?
C'est particulièrement commun chez les djihadistes occidentaux, j'ai envie de dire. Mais si on regarde le spectre des djihadistes dans le monde ou historiquement, non, c'est pas très commun. Il y a, par exemple, le père spirituel, j'ai envie de dire, de l'État islamique aujourd'hui, Abou Moussa al-Zarqawi, ce jordanien, est un ancien délinquant, droit commun. Mais pourquoi on en voit de plus en plus? Parce que, aussi des raisons pratiques, j'ai envie de dire, ce sont les anciens délinquants qui savent où acheter des armes, qui savent comment échapper à la vigilance des autorités et qui sont efficaces en matière de terrorisme dans leur pays d'origine. Ça veut dire, les djihadistes, quand c'est un ancien étudiant comme celui qui a essayé de s'attaquer à l'église de Villejuif, on a vu bien sûr qu'elle a fait une victime, la fameuse jogueuse, mais finalement il s'est tiré une balle dans le pied, il a appelé le SAMU. Donc c'est pas la même, ils ont pas les capacités humaines, tactiques qu'ont des anciens délinquants. Il y a aussi une chose qui est importante, parce qu'il y a la notion de rédemption. Donc dans le djihad. Donc ils estiment qu'un délinquant, aussi délinquant soit-il, déviant, tout ce que vous voulez, mettez tous les mots que vous voulez, du moment où il prend ce chemin du djihad, tous ses péchés seront lavés, pardonnés. Voilà.
Est-ce qu'il est comparable à d'autres terroristes? On entendait à 6h20 un chercheur, Hugo Micheron, faire le parallèle avec Mohamed Merah. Est-ce que c'est pertinent?
On peut faire une parallèle, mais Merah, ça reste quand même un cas assez exceptionnel. Parce que Merah, bon, il faut le dire aujourd'hui, c'était quelqu'un d'intelligent. Donc il a réussi à monter tout un stratagème pour arriver à ses fins. Il était jusqu'à Boutis, il s'est pas échappé finalement. Il s'est barricadé dans son appartement. Il est même sorti de son appartement pour appeler France 24, là où je travaille, avant de revenir et de se rebarricader. Donc c'est quand même, ça reste vraiment quand même
quelque
chose.
C'était élaboré.
Voilà,
alors que là, vous avez l'impression...
Aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'avait pas de plan B. Par exemple, les frères Kouachi, malgré les dégâts qu'ils ont faits, ils n'avaient pas de plan B. Donc, il faut aussi voir vers où va nous mener l'enquête dans ce sens-là.
Ça, on va attendre Laurent Nunez à votre place à 8h20 qui nous en dira plus. Il est né, il a grandi à Strasbourg. Déjà, un des assaillants du Bataclan était originaire de Strasbourg. Les Strasbourgeois étaient avec les Toulousains les tout premiers à partir en Syrie dès 2012. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin sur la très organisée filière de Strasbourg?
Il y a une vraie filière donc à Strasbourg et dans sa région. Donc, comme je dis, ça remonte les premières vérités d'attaque même avant le 11 septembre. On oublie aussi un épisode, celui de 2012, où Jérémy Louis Sidney a été tué par la BRI, alors que la police enquêtait sur l'attaque de l'épicerie juive de Sarcelles. Donc ça, c'est un épisode qui est complètement...
Et lui était originaire de Strasbourg ?
Et lui, il était tué à Strasbourg.
Voilà,
et donc il y a bien sûr Paul Mohamed Agad. Aujourd'hui, on parle d'une quarantaine de personnes à peu près impliquées dans les filières djihadistes ou radicalisées.
Mais pourquoi Strasbourg ou Toulouse ? Pourquoi ces villes-là ont les...
Après, ça dépend
des terreaux.
Ça dépend des villes. Strasbourg, c'est une ville frontalière. Ça facilite aussi, parce que bon, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, on parle aussi de ramifications avec la cellule de Hambourg qui a préparé le 11 septembre. Donc ça reste, pour Strasbourg, une ville frontalière, donc ville charnière comme d'autres villes. Pour Toulouse, il y a d'autres raisons. Mais après, si on regarde vraiment, il y a toutes les villes européennes sont concernés à un niveau ou à un autre.
Alors sur le plan français, évidemment, cet attentat intervient au cœur d'une crise politique majeure, celle des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un élément qui doit rentrer en ligne de compte, selon vous, dans l'analyse ? Est-ce que vous y voyez un lien, que ça intervienne maintenant, le timing, en pleine crise des Gilets jaunes ?
Moi, je ne vois pas un lien direct, en tout cas, entre ce qui se passait à Strasbourg et le phénomène Gilets jaunes. Après, on aurait pu imaginer que les djihadistes commettent des attentats pendant les manifestations, mais pas contre les manifestations. Ça, c'est important parce que, de fait, les forces de l'ordre sont occupées. Mais vous faites bien de me poser cette question parce que hier, il y a eu un audio de 28 minutes, donc, du patron d'ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique, Abdelwadoud, où, en gros, il prenait fait et cause pour les Gilets jaunes. En disant, les Gilets jaunes sont les opprimés, comme nous, les gens d'Al-Qaïda, nous sommes les opprimés. En gros, soulevez-vous contre votre gouvernement, parce que ce qui coûte de l'argent, c'est les OPEX, c'est les ressources qui sont pillées en Afrique, entre guillemets, etc., etc. Donc on voit là une vraie différence entre les stratégies de l'État islamique qui font pas de différence, avec tout le monde doit être tué, civil, etc., etc., et les stratégies d'Al-Qaïda, où Al-Qaïda, moi j'ai envie de dire, fait de la politique. Donc essaye de capitaliser, comme vous le dites, sur une crise qui est bien réelle.
Alors, cet attentat intervient dans un contexte marqué par la défaite militaire de Daesh au Moyen-Orient, en Syrie. Est-ce que c'est lié qu'ils frappent aujourd'hui en France alors qu'ils sont battus en Syrie ?
Ça, c'est une comparaison, à mon humble avis, qui n'a pas lieu d'être. Ça fait quelques années que je le dis, parce que les défaites militaires ou paramilitaires sur le terrain n'ont aucune incidence sur la capacité de nuisance terroristes, parce que les modes opératoires terroristes, en tout cas ceux de l'État islamique et d'Al-Qaïda, ça demande pas beaucoup de moyens. Vous avez vu, même pour le 13 novembre, l'équipe a fait son explosif, s'est armée ici même en Europe.
Donc le fait que Daesh soit battu en Syrie n'a rien à voir avec la capacité opérationnelle qu'ils ont en Europe et en France.
Ça les empêche d'envoyer, de projeter des équipes, mais ça n'empêche pas les velléités djihadistes de ceux qui les soutiennent. On l'a très bien vu avec le meurtre du colonel Beltram. C'était après la défaite sur le terrain, à Mossoul, et tout le monde a dit bon, c'est fini. Alors que non, parce que le fond, c'est quoi ? C'est l'idéologie. C'est pas les pertes sur le terrain. L'État islamique a déjà été défait deux fois en Irak. Al-Qaïda, Ben Laden a été tué en 2011. Ils sont plus forts que jamais. Donc il y a une idéologie aujourd'hui qui
Et elle
trouve...
reste très forte, l'idéologie ?
Elle reste, bien sûr. Du moment où on
elle
a des gens...
Elle n'est pas en régression.
Elle n'est pas en régression du tout. Aujourd'hui, on voit que l'État islamique qui était confiné au désert irakien en 2011, c'est devenu une marque mondiale. Aujourd'hui, il y a le Nigeria, les Philippines, le Sinaï, Somalie, Libye, etc., etc.
Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour ces précisions. Vous êtes auteur du livre « État islamique, le fait accompli ». C'est publié chez Plon. Belle journée à vous.
Merci.